Alors, ce tableau, il a été fait par un monsieur qui s'appelle Henri Lindegarde. D'ailleurs, il a signé. Est-ce que vous avez trouvé à quel endroit il a mis sa signature? Oui, Mathéo?
Au pied.
Au pied, H-L. Henri Lindegarde. Henri Lindegarde est né dans une famille, il avait un papa pasteur. Lindegarde, ce n'est pas alsacien, hein, ça vient d'ailleurs, il vient du Danemark. Son papa était un missionnaire, il a quitté le Danemark, il est arrivé en Espagne, il parlait de Jésus aux Espagnols là-bas, et puis il est né, Henri, il est né en Espagne. Et puis le papa, il a vu que son fils, Henri, était doué pour la peinture. Alors il lui a offert des cours de peinture. Et devinez avec qui il a étudié en Espagne, un célèbre peintre espagnol. Picasso. Pablo Picasso. Il a étudié avec lui, ensemble. Et d'ailleurs, on reconnaît les formes un peu carrées. Picasso, il en a aussi des formes carrées. Il fait des visages un peu carrés, c'est bizarre, mais bon. Et par contre, Henri Lindegarde, il n'a pas fait que des études de peinture. Il est devenu pasteur, lui aussi. Et il a été pasteur dans le sud de la France, du côté de Nîmes, par là-bas, dans le Gard. Et il lui arrivait de venir à l'église pour la prédication, avec les pinceaux, avec les couleurs. Alors, comme je m'appelle Renoir, j'ai été tenté de faire pareil. Mais ce n'est pas un problème de talent, hein. C'est juste que j'avais peur qu'il y ait des taches sur la moquette, donc je vais vous montrer le tableau d'Henri Lindegarde. Alors, dites-moi ce que vous voyez. Oui? Deux personnes, effectivement, deux personnes. Ce sont deux frères dont nous allons lire l'histoire. Vous savez, entre les frères, il y a parfois des rivalités. Vous comprenez ce que c'est, des rivalités entre frangins? Ben, tous les deux veulent le même jouet. Il y a une crise, une bagarre. Voilà un exemple de rivalité. Et ces deux frères-là, ben c'est comme aujourd'hui, hein, autrefois, 1900 ans, non, même 4900 ans en arrière. C'était comme aujourd'hui, hein, les frères, parfois, ils étaient rivaux. Et je vais lire l'histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, les versets 21 à 28, et on reviendra sur le tableau une fois qu'on aura lu l'histoire. Mais écoutez bien, parce que vous allez entendre le nom des deux frères rivaux. Genèse 25, verset 21. Isaac, c'est le papa. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, c'est la maman, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre. Elle s'écria, « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel, qui lui répondit, « Il y a dans ton ventre deux nations, deux peuples différents naîtront de toi. L'un d'eux sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera soumis au cadet, au deuxième. » Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils, comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü le velu. Et après lui naquit son frère, la main accrochée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob le talon. Isaac avait alors 60 ans au moment de leur naissance. Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob, lui, était d'un caractère paisible. Il préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Alors, revenons au tableau. Qui sont ces deux personnages? Quel est leur nom? Vous avez retenu leur nom? Mathéo, tu en dis un?
Jacob.
Quelqu'un a noté le deuxième? Est-ce que Claire a noté le deuxième? Non? Quelqu'un peut dire le nom du deuxième? Isaac, c'est le papa. Il y a Jacob, un des deux frères, mais le deuxième frère, le nom est un peu compliqué. Oui?
Ésaü.
Ésaü. Mais Ésaü, ça va aussi. Ce sont deux frères. Et deux frères particuliers, vous avez vu comment ils sont nés? Comment ils sont nés? Pardon? Ce sont des jumeaux, donc ils sont nés quand?
En même temps.
En même temps, enfin, disons le même jour. Leur jour d'anniversaire, c'est le même. Ils ont chacun leur gâteau d'anniversaire en même temps. Et cependant, ils ne sont pas nés tout à fait en même temps. Il y avait quand même un premier et un deuxième. C'était qui le premier? Le premier, c'était? Oui? Ésaü. Et le deuxième, Jacob. Ce sont des jumeaux. Est-ce qu'ils se ressemblent? Et non, alors là, dans ce cas-là, on dit que ce sont de faux jumeaux. Ils sont nés en même temps, ils étaient ensemble pendant toute la grossesse dans le ventre de la maman, mais ils sont différents, ils ne se ressemblent pas. D'ailleurs, il y en a un qui se distingue de l'autre très nettement. L'un est roux, ça veut dire quelle couleur de cheveux? Orange, voilà, c'est ça. Il est roux et en plus très poilu, tout velu. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Ce sont de faux jumeaux. Ésaü est sorti le premier du ventre de sa maman, mais le deuxième, on aurait dit qu'il n'était pas content de naître en numéro 2. Parce qu'il accrochait le talon de son frère, il voulait doubler son frère. Hein? C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Jacob, en hébreu, le talon. On dirait un bébé jaloux de son frère. La jalousie entre frères et sœurs, ça arrive. Mais là, ça commence tôt. Alors, regardez le dessin. Les deux frères se ressemblent-ils? Non, ils ont le même âge. Mais celui de gauche est plus petit que l'autre. Il est possible... Il est possible que l'un des frères soit plus grand parce que plus sportif, plus costaud. Vous avez remarqué, les enfants, quand ils ont commencé à grandir, ils ont montré ce qu'ils aimaient faire. Et Ésaü, il aimait quoi? Vous vous en souvenez? Courir. Où est-ce qu'il aimait courir? Dans la tente? Dans les champs. Courir dans les champs pour faire quoi? Tu peux afficher le verset 27, s'il te plaît? Et est-ce que, Morgane, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faisait celui qui courait là? Verset 27. Tu peux lire? Les enfants, les deux garçons. Ésaü. Exactement, un habile chasseur qui aimait courir les champs. Habile, ça veut dire que quand il vise une gazelle, il ne la loupe pas. La flèche, elle ne va pas à côté, hein. Direct sur la gazelle. Et alors, où est-ce qu'il trouve les gazelles? Pas dans la tente, dans les champs. Alors, Ésaü, il courait beaucoup. Quand il cherchait des gazelles, il marchait, cherchait des gazelles. Quand il voyait la gazelle, elle s'enfuyait. Lui, il court. Et moi, j'ai remarqué avec mon chien, les chevreuils, quand ils ont peur, ils courent, mais ils s'arrêtent trop vite. On les retrouve si on court, nous aussi. Alors lui, il faisait ça. Je pense qu'il était costaud. Il courait vite, il courait longtemps. Et puis, la chasse, c'était avec un arc. Alors il faut un grand bout de bois et une corde et tirer très très fort pour que la flèche aille très loin. Et à force de tirer, pour s'entraîner et devenir habile, il faut tirer souvent. Eh bien, il avait du muscle. Il était costaud, Ésaü. C'était le frère plus grand, plus fort, plus costaud. Ça, c'est Ésaü. Et Jacob, il aimait quoi? Qu'est-ce que vous voyez, Mathéo? Tu peux nous lire pour Jacob? Jacob était... Ah, tiens. Pas dans les champs? Où est-ce qu'il préférait rester, Jacob? Dans les tentes. Il était tranquille, il était paisible. Lui, partir pendant des heures à la recherche d'une gazelle qu'on n'arrive pas à trouver, etc. Non, ça ne lui plaisait pas. Alors, Jacob, lui, il est moins sportif. Il préfère la paix, pas le combat. Pas la traque du gibier pour le tuer. Je suis victorieux, je vais ramener une gazelle. Non, c'est pas ça qu'il aimait, lui. Il préférait rester dans les tentes. Il préférait le calme, la paix. Et on voit que le côté sportif d'Ésaü, ça plaisait au papa. Parce que le papa, il aimait bien manger de la gazelle, hein, le gibier. Alors ça, Isaac, il préférait Ésaü. Et puis la maman, elle préférait Jacob, son côté paisible, est toujours là, toujours présent, toujours disponible pour discuter avec elle. Ça, elle aimait beaucoup. Quand elle avait envie de parler, elle avait toujours Jacob. Donc, elle avait une préférence pour le deuxième, pour Jacob. Regardez la position. On peut revenir, merci, au tableau. Regardez la position. Est-ce qu'ils sont pareils, positionnés pareils? Il y en a un qui est debout et l'autre... Oui, à genoux. L'un plie les genoux devant l'autre. C'est Jacob. Et Jacob fait ça devant son frère Ésaü parce qu'il vient lui demander pardon. Pourquoi on a besoin de demander pardon? Vous savez, ça vous arrive à vous aussi, c'est pas qu'une histoire d'adulte. Pourquoi on a besoin de demander pardon? À cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une bêtise, on a été méchant, et après on vient voir le frère ou la sœur et on dit « je regrette, je demande pardon ». C'est rare entre les frères, mais c'est important, c'est très utile. Et Jacob, lui, il revient vers Ésaü après 20 ans. Il s'était enfui pendant 20 ans, il avait quitté la famille, il avait couru, lui qui n'aimait pas courir, il avait couru pour s'enfuir pendant 20 ans. En fait, à l'époque, il a fait un sale coup à son frère Ésaü. Un sale coup. Il trouvait que son frère était fort, costaud, mais pas très malin. Alors, il a décidé de ruser, de devenir plus malin que lui. Et voilà le coup qu'il y avait fait. Il a décidé de prendre sa place de fils aîné. Waouh ! Ésaü s'est fait avoir, il n'y avait que du feu. Il a décidé de doubler son frère. Vous savez, c'était lui qui tenait le tanon pour essayer de doubler au moment de la naissance. Hein. Et ben là, il l'a fait, en vrai. Pour cela, Jacob s'est déguisé en Ésaü. Il a mis les habits de son frère, Ésaü, pour avoir la même odeur que lui. Comme son frère est très, très poilu, il a mis une peau de chèvre sur les bras, comme ça, pour avoir plein de poils sur les bras, comme son frère Ésaü. Et puis ensuite, il est allé voir son père et il a dit « Mon père Isaac, je suis ton fils aîné. » Oh, le menteur! C'est pas vrai! Il est en train de mentir, là. Le papa, il a écouté. « Me voici, Isaac, mon père, je suis ton fils aîné, donne-moi ta bénédiction. » Le papa Isaac, il était vieux, mais pas fou. Il avait un doute. Il écoutait. Les yeux ne marchaient plus, avec l'âge, il était devenu aveugle. Mais les oreilles, par contre, ça marchait encore. Il écoutait et il semblait que c'était la voix de qui? La voix de qui? La voix de Jacob. C'est pas facile d'imiter la voix de quelqu'un d'autre, hein. Alors Jacob a fait des efforts, mais ça n'a pas bien marché. Et Isaac, il avait un doute. La voix est celle de Jacob. Alors Isaac a voulu vérifier. Il a dit, viens mon fils. Jacob s'est approché et hop, le père lui a attrapé les bras. Devinez pourquoi? Pour toucher avec ses doigts, est-ce que c'est un fils poilu ou pas? Et qu'est-ce qu'il a senti? Qu'est-ce qu'il a senti, le papa? Il a senti les poils de chèvre. Il a dit, c'est bon, c'est Ésaü, parce qu'Ésaü est très velu. Alors que Jacob, non. Mais il avait encore un doute. Alors il a tiré son fils vers lui et il l'a embrassé. Et en l'embrassant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti l'odeur. Et quelle odeur il a senti? Ah non, il n'a pas senti l'odeur de Jacob, et il a senti l'odeur d'Ésaü. Pourquoi? Il avait mis les habits d'Ésaü. C'était l'odeur d'Ésaü sur les habits, parce que, pour le déguisement, il l'avait fait exprès. Et c'est parce que Ésaü, quand il part courir après les gazelles, dans un pays où il fait chaud, il transpire beaucoup. Alors les vêtements, ça sent la transpiration, vous avez remarqué? Hein, c'est pour ça que des fois on prend des douches, hein, puis on lave les vêtements. Mais là-bas, il n'y avait pas de douche et il n'y avait pas de machine à laver. Alors les habits d'Ésaü, forcément, on les reconnaissait de loin. Alors la transpiration, c'était bien celle d'Ésaü. Isaac a été trompé par Jacob. Alors il a fait ce que demandait Jacob. Il a fait une prière à Dieu. Une prière qui aurait dû être pour le fils aîné. Une prière qui parle du plan de Dieu pour l'avenir. Un plan dont Dieu avait déjà parlé au grand-père, Abraham. Il s'agit beaucoup plus tard de la naissance de Jésus pour que plus tard, tous puissent demander pardon pour leurs péchés. Donc un plan pour l'avenir qui va loin, loin, loin. Et Ésaü, plus tard, il a compris ce qui s'est passé. Il a compris que son frère Jacob l'a trompé et a trompé Isaac. Alors il était tellement fâché, tellement en colère, que lui, le costaud, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Tuer Jacob. Il a juré de tuer Jacob. C'est pour ça que Jacob s'est enfui et ça a duré 20 ans, pour ne pas mourir. Parce que Ésaü a décidé de tuer son frère. Mais voilà, pendant les 20 ans de fuite, Jacob a été trompé par d'autres. Lui, le trompeur, a été trompé par d'autres. Et il a vu combien on est malheureux quand on a été trompé. Alors, au bout de 20 ans, il en avait marre de cette vie. Il a décidé de changer. Et voilà qu'il revient vers son frère. Et qu'est-ce qu'il fait? Devant Ésaü, il se met à genoux pour dire quoi?
Pardon.
Pardon pourquoi? Parce qu'il faut dire pourquoi. Il ne faut pas juste dire pardon, mais on explique. Qu'est-ce qu'on regrette? On regrette quoi? Il regrette quoi, Jacob? Pardon parce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit quoi, Joseph? Pardon, Jacob. Pardon parce que j'ai... Je voulais être à ta place, très bien. Pardon parce que j'ai menti. Pardon parce que je me suis déguisé. Pardon parce que j'ai trompé. Pardon parce que j'ai triché. Il demande pardon pour tout ça. Est-ce que Ésaü tue Jacob comme il avait juré de le faire 20 ans plus tôt? Est-ce qu'il le tue là? Vous voyez une épée, un arc, une flèche? Non, non, il ne le tue pas. Au contraire, il fait quoi? Il le serre dans ses bras, il l'embrasse. C'est le contraire du meurtre. Pourquoi Ésaü ne fait pas ce qu'il a décidé 20 ans plus tôt? Jacob demande pardon, donc il faut répondre. Soit oui, soit non. Quand quelqu'un vous demande pardon, vous devez dire si vous êtes d'accord de pardonner ou si vous refusez de pardonner. Celui qui demande pardon, Dieu le bénit. Et celui qui pardonne, Dieu le bénit aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de pardonner, vous pouvez dire non, je ne veux pas. Et alors là, la bénédiction de Dieu, elle attend. Elle va venir le jour où vous pardonnerez. C'est dommage de se priver de la bénédiction de Dieu. Mais là, Ésaü, il est prudent. Il donne son pardon. Et il donne son pardon parce qu'il voit que son frère a changé. Regretter quelque chose. Dire j'ai eu tort. J'ai menti, j'aurais pas dû. J'ai triché, c'est pas normal. C'est nouveau. Alors il voit que son frère a changé. Il donne son pardon. Maintenant, on va regarder autre chose. Regardez les traits blancs. Est-ce qu'il y a des traits blancs horizontaux? Il y en a un petit peu, pas beaucoup. Il y a la main qui n'est pas tout à fait horizontale. Mais autrement, les autres, regardez, c'est surtout vertical. Les traits blancs sont surtout verticaux. Le blanc nous fait penser à la lumière. Alors que le noir nous fait penser à la nuit. Le noir nous fait penser au mal qu'on fait en cachette. Hein? Jacob devant son père, tout déguisé, qui dit « Je suis ton fils aîné hein? », en train de mentir, hein? Le mal qu'on essaye de cacher. Par les traits blancs, le peintre Henri Lindegard indique probablement l'aide de Dieu dans notre vie. L'aide de Dieu dans notre vie. Et regardez la tête de Jacob. Est-ce que vous voyez du blanc? Oui. Et curieusement, le blanc qui est dans la tête de Jacob, regardez.
Ici, là, qu'est-ce que vous voyez?
La tête, elle est ouverte. Et le blanc qui est dans la tête de Jacob, en fait, c'est le même blanc qui est dans le ciel. Vous voyez? Jacob a ouvert sa personne, sa pensée à Dieu pour que le blanc du ciel, ce qui est beau chez Dieu, entre chez lui. Il a ouvert sa vie à Dieu pour que ce qui est beau chez Dieu vienne aussi chez lui. Il a changé, Jacob. Le blanc du ciel apporte le blanc pour la tête de Jacob. C'est une manière de dire, Jacob s'est tourné vers Dieu et depuis, il est nouveau, il a changé. Depuis, il reçoit la lumière de Dieu dans ses pensées. C'est comme ça qu'il a pu dire, Ésaü, je regrette, j'ai menti, j'aurais pas dû. C'est grâce à l'aide de Dieu. Il ouvre sa pensée pour que Dieu l'aide, et les belles choses de Dieu l'aident à dire de sa bouche des belles choses comme, je demande pardon. Effectivement, Jacob a connu une conversion. Un retour vers Dieu à la fin des 20 ans. Auparavant, pour lui, pour Jacob, Dieu c'était le Dieu de son père, Isaac, le Dieu de son grand-père, Abraham, mais pas le sien. Ah non, non, non. Ah non, parce qu'il aime trop le mensonge, la tromperie, le piège, la triche, les ruses. Il aime trop ça. Il ne peut pas être son Dieu. Il connaissait Dieu, mais ce n'était pas son Dieu, c'était le Dieu des autres, vous voyez? Mais maintenant, Jacob a décidé de faire confiance à Dieu. Il veut vivre comme Dieu aime. Alors Dieu, en réponse, il a décidé de changer son nom. Jacob, le talon, hein, celui qui attrape le talon de son frère pour essayer de le doubler, c'est fini maintenant. Tu vas t'appeler Israël. Une nouvelle vie, vivre avec Dieu, c'est un gros changement. Pour une nouvelle vie, un nouveau nom. Jacob, le talon, c'est fini. Tu t'appelleras Israël. Un nom nouveau pour une nouvelle vie. Et regardez son frère, Ésaü. Regardez la tête d'Ésaü. Est-ce que c'est la même chose? Non. Non, 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 non. Le blanc ne vient pas du ciel. Le blanc est bien séparé du ciel, vous avez vu? Il y a, la tête n'est pas ouverte vers Dieu pour accueillir les pensées de Dieu. La fermeture est même augmentée par une sorte de couronne. On voit que les pensées d'Ésaü sont bien fermées. Elles sont chez lui. Ce n'est pas les mêmes que chez Dieu. Mais on voit que quand même Ésaü a changé puisqu'il a renoncé à tuer son frère. Il y a un peu de blanc du ciel qui entre chez Ésaü. Mais ce n'est pas dans la tête. À quel endroit on voit le blanc du ciel qui entre chez Ésaü?
Regardez ça là, qu'est-ce que je montre là? C'est quoi ça?
C'est la main, c'est Ésaü qui embrasse son frère. Ça veut dire que la main qui devait tuer, tenir le poignard ou l'arc, la main qui devait tuer, elle embrasse. Cette main, elle est blanche et elle communique, alors pas directement avec le ciel là-haut, mais par le côté. Mais comme Dieu est partout, je crois que ça montre comment Dieu, qui aime tout le monde, est prêt à aider même ceux qui ne veulent pas de lui. Il aide beaucoup de médecins à faire des recherches pour le Covid-19. Même si eux disent « Dieu n'existe pas », ils les aident quand même parce qu'ils les aiment. La grâce générale de Dieu. C'est par le côté que Dieu aide Ésaü. Il ne s'en rend peut-être même pas compte, mais tant mieux. Il l'aide, il en bénéficie. Et au lieu de tuer Jacob, il embrasse Jacob. La main droite fait le bien, elle embrasse au lieu de tuer. Ésaü accueille l'aide de Dieu une fois, au moment de la réconciliation avec son frère, mais pas l'aide de Dieu toujours. Il garde ses propres pensées. Il les aime trop. C'est dommage, il veut contrôler encore sa vie. Ses pensées restent typiquement humaines. C'est dommage car l'Esprit de Dieu veut souffler des bonnes idées en nous. Il veut nous souffler comment faire le bien, à quel moment faire le bien, à qui faire le bien. Il veut nous souffler ses bonnes idées aujourd'hui, et puis demain, et puis après-demain, éternellement. Éternellement, ça va durer longtemps. D'où la porte ouverte de Jacob vers Dieu pour accueillir les choses que Dieu aime. Ésaü fait le contraire, il freine l'action de Dieu dans sa vie. Et ça, c'est inquiétant. Jacob doit le savoir ou doit le sentir, entre son frère et lui, il y a quelque chose de différent. Lui, il est tout heureux maintenant d'avoir changé et d'accueillir l'aide de Dieu pour devenir un nouvel homme. Mais il voit que son frère, ce n'est pas le cas. Ésaü veut garder ses pensées. Cela veut dire que Ésaü peut de nouveau avoir envie de violence, faire usage de sa force. C'est inquiétant. Jacob doit faire attention. Ce qu'il connaît d'Ésaü, ses souvenirs de 20 ans plus tôt, ça peut recommencer. Donc, Jacob est heureux de la réconciliation avec son frère, ça fait du bien, mais il s'inquiète quand même. Et lorsque Ésaü, tout heureux de revoir son frère, lui dit « Mon frère, tu vas habiter chez moi ». Parce que Jacob, il a fait 1400 kilomètres, hein, donc il n'a pas de chez lui, là. Hein. « Tu vas habiter chez moi. » C'est gentil, c'est généreux, mais vous avez vu la tête fermée d'Ésaü. Il faut faire attention. Ce n'est pas quelqu'un qui accueille les pensées de Dieu. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas s'associer. Ce serait devenir une proie. Ce serait aller vers un danger. Alors, Jacob refuse. Il veut garder cette paix nouvelle qui s'est instaurée entre deux. Donc, il ne faut pas prendre de risques. On se réconcilie, mais ensuite, il va aller vivre ailleurs. La sagesse, une certaine distance, pour ne pas recommencer un conflit, pour ne pas recommencer une bagarre. Vous voyez, on a une nouvelle paix, il faut la protéger. La réconciliation et la sagesse pour éviter que tout recommence comme avant. Et puis, surtout, Jacob garde en tête les pensées que Dieu lui souffle par son esprit. puisqu'il a ouvert sa vie à Dieu. Et il y a la fameuse promesse que Isaac, le papa, connaissait. À cause de cette promesse, il a fait la fameuse prière, la prière pour le fils aîné. Hein. Abraham aussi connaissait cette promesse. La promesse que Dieu avait faite, c'était « Il faut vivre dans ce pays, je vais vous le donner. » Et lui, Isaïe, il a oublié. Lui, il est parti, il a changé de pays. Il est allé à l'est, en Jordanie. Il a oublié la promesse, Isaïe. Jacob dit « Non, il ne faut pas oublier. Moi, je vais rester là où Dieu veut que je sois. Je vais rester. » Et ce pays, aujourd'hui, il s'appelle Israël. Le nom de Jacob converti, revenu à Dieu, le Jacob nouveau. Pour conclure, Jésus dit que nous avons tous besoin de la nouvelle naissance, c'est-à-dire ouvrir notre pensée, accueillir les pensées de Dieu. Nous avons tous besoin de la nouvelle naissance. Il dit dans Jean 3:3, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et il dit au verset 6, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine, naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. La nouvelle naissance, c'est l'esprit de Dieu qui nous souffle des bonnes idées et ça nous change. Et on fait le bien que Dieu aime. Naître de nouveau, on en a tous besoin, même les enfants en ont besoin. Naître de nouveau, c'est ouvrir notre personne à Dieu pour que sa pensée vienne éclairer notre pensée. La pensée de Dieu éclaire, embellit, améliore notre propre pensée. Naître de nouveau pour que Jésus fasse de nous une nouvelle personne. Je vais prier. Oui, Seigneur Jésus, un grand merci parce que tu veux t'approcher de nous. Et si nous acceptons d'ouvrir la porte, tu es prêt à nous parler, à nous éclairer. Tu es prêt à nous aider pour changer. Je te dis merci, Seigneur, parce que nous sommes des gens bien plus agréables aux autres lorsque tu nous changes. Je te dis merci, Seigneur, parce que nous sommes des gens bien plus heureux lorsque tu nous changes. Je te dis merci, Seigneur, parce que toi, tu te réjouis beaucoup plus lorsque tu nous vois changer. Alors je te prie, fais ton œuvre en nous, Seigneur, parce qu'elle est belle. Amen.